Et la haute montagne également donc pour l'équipe de la Tête au Carré. Cet après-midi, nous sommes face à la mer de glace pour la suite de cette journée spéciale biodiversité et climat sur France Inter, avec donc cette vue sur le massif depuis la terrasse du Grand Hôtel du Mont-en-Vert au-dessus de Chamonix. Et c'est donc face au plus grand glacier français que nous allons nous interroger avec mes invités sur la question du changement climatique et de ses conséquences, bien sûr, sur la faune et sur la flore locale. Des effets qui se font déjà sentir avec un processus en cours extrêmement rapide. Et c'est donc depuis ce laboratoire à ciel ouvert du Mont-Blanc que nous allons passer cette heure de science avec mes invités géographes, chercheurs, cristalliers. Et toutes vos questions dès maintenant sur franceinter.fr, également sur le mot-clé l'attaque. Et avec le public qui nous a rejoint et que je salue ici grâce à ce petit train à crémaillère du Mont-en-Vert. Beaucoup plus loin en tout cas de nous sur la planète Vénus, des volcans en activité viennent d'être découverts. Et ce sera la une de la science tout à l'heure, Axel Villard. Bonjour.
Bonjour Mathieu. Oui, depuis les années 70, les scientifiques les cherchent, ces volcans. Ils se doutent qu'ils sont là, mais impossible de mettre la main dessus. Mais cette fois, c'est fait. Et Vénus devient donc la deuxième planète du système solaire à posséder des volcans en activité. On vous en dit plus dans un instant pour la une avec vos questions sur Twitter.
Et c'est Michel Billot qui réalise aujourd'hui cette Tête au Carré Alpine, dossier préparé par Anne-Cécile Perrin avec Thomas Delosier. Émission aujourd'hui en partenariat avec nos confrères du journal La Croix.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter.
Mathieu. La mer de glace donc et le Mont Blanc, ce laboratoire grandeur nature fascinant face auquel nous nous trouvons et qui permet d'étudier les variations du climat, la façon dont le réchauffement l'affecte. Et nous ont rejoint donc sur ce balcon alpin la chercheuse Anne de Lestrade, le glaciologue Sylvain Coutran et le cristallier René Guilini. Bonjour à tous
bonjour,
les trois.
Bonjour. Bonjour.
Merci de nous avoir rejoints. Alors décrivez-nous l'endroit où nous nous trouvons, là où nous sommes donc depuis ce matin, pour le partager avec les auditeurs. Vous êtes nos yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit, Anne de Lestrade, face à nous, en ce moment?
Alors, en ce moment, on voit, je dirais, ça représente à peu près l'ensemble des écosystèmes européens devant nous, puisqu'on a un gradient d'altitude assez phénoménal ici, qui, on est à peu près à 2000 mètres, et on voit des 4000, là, donc l'aiguille verte, les drues.
Oui.
Donc voilà, donc on passe de la forêt à la pelouse alpine, au glacier, et jusqu'aux roches, quoi.
Sylvain Coutran.
Ce qui est assez remarquable ici, sur le site du Mont-en-Vert, c'est qu'on est à 1913 mètres. On a encore l'influence du glacier qui a beaucoup perdu, qui a beaucoup rétréci. Mais c'est un site qui est quand même mythique, ça, c'est bon de le souligner. C'est le premier glacier étudié dans le monde, certainement. C'est aussi le premier glacier qui a été décrit, qui a été observé avec la naissance du tourisme. Les premiers Anglais, en 1741, sont arrivés ici et l'ont baptisé mer de glace.
Ouais. René Guilini. Le seul qu'on voit pas, c'est le Mont-Blanc, hein.
Oui, on ne le voit pas d'ici. Non. On ne le voit pas d'ici. On appelle ce site le Mont-en-Vert parce que c'est une des portes d'entrée du massif du Mont-Blanc qui ont permis au 19e siècle aux gens de gravir pas mal de parois du massif du Mont-Blanc en contournant les montagnes que nous voyons depuis la vallée et qui sont totalement invisibles depuis la vallée. Donc on monte à l'envers et le Mont-en-Vert est la porte d'entrée du grand alpiniste.
Voilà, et on a la chance de faire cette émission en extérieur, ce qui est rare pour nous et très agréable, donc sur la terrasse justement de ce grand hôtel du Mont-en-Vert à la mer de glace. Vous avez été tous les trois des témoins des changements justement climatiques ici. On va en discuter avec ce lieu donc d'expérimentation scientifique qu'on va découvrir avec vous et avec les travaux menés sur les animaux, sur les végétaux. Et puis on découvrira également donc ce métier de cristallier. J'attends vos questions, vous qui nous écoutez, sur franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, la découverte d'une équipe allemande au sujet de volcans actifs sur la planète Vénus. Les scientifiques s'en doutaient depuis plusieurs dizaines d'années. Et mais maintenant, c'est prouvé, ce volcanisme important. La confirmation donc a été publiée dans la revue Geophysical Research et soulève donc de nouvelles questions. On en parle avec vous par téléphone, Charles Frankel. Bonjour. Vous êtes géologue spécialiste des volcans et puis notre chroniqueur du ciel, Philippe Henarejos, rédacteur en chef du magazine Ciel et Espace, en direct depuis le studio de Paris. C'est vous qui gardez la maison au chaud. Philippe, bonjour.
Oui, bonjour.
Charles Frankel, cette éruption au sujet de laquelle donc a été faite cette publication, ces chercheurs allemands l'ont observée en 2008. Qu'est-ce qui explique la lenteur de l'apparition?
Il faut du temps parce qu'en fait, c'est l'œuvre d'un superbe satellite de l'Europe, Vénus Express, qui amasse des données, est en orbite autour de Vénus, amasse des données, mais ces données, il faut les étudier, ça prend du temps, et on a une masse de d'images en infrarouge, il faut savoir ce qu'on cherche. Une équipe a décidé de chercher dans des endroits particuliers de Vénus les rifts, c'est-à-dire Vénus en connaît déjà sa géographie, elle a des fossés comme le grand rift africain où il y a des volcans. Ces volcans, on aimerait bien qu'ils soient actifs, et ça a pris du temps. pour, orbite après orbite, voir si on pouvait voir un changement d'une orbite à l'autre qui indiquerait qu'il y avait de l'activité.
Philippe Hénarejo, trouver des volcans actifs, c'était pas facile. Elle n'est pas facile à observer, la surface de Vénus.
Elle n'est pas facile à observer parce qu'elle est complètement masquée en permanence par une atmosphère chargée de nuages. Donc il faut des instruments qui regardent à travers. Ça avait été fait avec des radars à l'époque, dans les années 90, avec une sonde américaine qui s'appelait Magellan. Et cette sonde avait montré, bon, ce qu'on savait déjà puisqu'il y avait eu d'autres sondes avant, mais avait montré en détail que la planète Vénus est constellée de volcans. Et on a aussi d'autres instruments sur Vénus Express, notamment des imageurs infrarouges qui, eux, captent l'émission de chaleur, si vous voulez. Alors, il faut arriver à distinguer de savoir si c'est la chaleur des nuages ou la chaleur du sol. Mais là, effectivement, c'était pas facile parce que il y a quelques zones qui semblent avoir montré des différences de température. De 500 degrés, qui est à peu près la température moyenne à la surface de Vénus, ces zones ponctuellement, sur quelques jours ou quelques semaines, sont passées à 800 degrés et sur des zones très petites. Alors, c'est ce qui fait dire aux chercheurs que ce sont sans doute des épanchements de lave ou peut-être des émanations de gaz chaud venant de l'intérieur de Vénus.
Charles Frankel, qu'est-ce qui laissait penser justement que cette planète Vénus avait une forte activité volcanique ?
Ah bah ça, les volcans, on les voit justement, comme disait Philippe, au radar. Il y a à peu près 1000 des volcans. Ils sont très très grands. Il y en a certains qui font plusieurs centaines de kilomètres de large, plus grands que nos volcans, même que Hawaï par exemple, qui est l'un de nos plus grands volcans. Donc on les voit bien. Ils ont la forme d'un volcan. Ils ont des coulées de lave, zéro radar. On voit des structures fluidales qui descendent. Voilà. Donc les volcans, ils étaient là. Le problème, c'est de trouver, attendre l'éruption. Et sur les images radar, on n'a pas une résolution, c'est-à-dire un détail suffisant pour voir. On les a cherchés, de voir si une nouvelle petite coulée de lave arrivait un an après l'image d'avant, quoi. Voir s'il y avait un changement. Ces changements-là, à cette échelle-là, on les voyait pas. Alors on se disait, bon, bah peut-être que Vénus fait des éruptions puis s'arrête pendant des centaines de millions d'années et qu'on ait le mauvais jour. et beaucoup de volcanologues donc étaient au taquet à attendre, à trouver une façon. Et puis il y avait eu un autre indice, c'est que de temps en temps, il y a une bouffée de dioxyde de soufre, qui est un gaz typiquement volcanique, qui perce au-dessus des nuages, une espèce de floraison de dioxyde de soufre. Ça avait déjà été détecté d'ailleurs dans les années 80 par une sonde américaine. Et voilà que ça a recommencé avec Vénus Express. Dès que Vénus Express est arrivé en orbite autour de Vénus en 2006, boum, floraison de dioxyde de soufre au-dessus de l'atmosphère. C'était vraiment très tentant d'y voir une éruption volcanique.
Est-ce que l'étude de ce volcanisme sur Vénus pourrait nous aider à comprendre celui de la Terre, le passé ou l'avenir ?
Ah oui, de toute façon, il faut toujours, si c'est ça l'intérêt de la conquête spatiale, ça permet d'avoir plusieurs sujets pour comparer. C'est comme si vous êtes un docteur, vous n'avez qu'un seul patient, la Terre, vous allez apprendre des choses. Mais si vous avez plusieurs patients, la Terre, Vénus, Mars, voilà, vous allez pouvoir comparer et en déduire des lois. Vénus peut nous éclairer sur ce qu'était le volcanisme sur Terre avant la tectonique des plaques, qui a peut-être commencé il y a 3,5 milliards d'années, et depuis, la Terre, ça a toujours été la tectonique des plaques, c'est-à-dire un renouvellement un peu en tapis roulant de la croûte terrestre. Un truc très bizarre et qui est singulier à la Terre. Les autres planètes ne l'ont pas. Nous, vraiment, on est privilégiés d'avoir ce dynamisme. Vénus a l'air d'avoir un volcanisme un peu qui bouge pas, immobile, ce qui était peut-être le volcanisme sur la Terre il y a 4 milliards d'années.
Philippe Hénarejo, à quoi ressemble la photo de ces volcans en activité là sur Vénus exactement ? Qu'est-ce qu'on y voit véritablement alors ?
Ah, la photo c'est une tache avec des fausses couleurs, un point rouge au milieu. Donc ce n'est pas, il faut pas imaginer un volcan majestueux avec un panache au sommet. C'est pas une photo comme ça. par contre, non, ce qui est très important dans cette affaire, c'est que Vénus effectivement est constellée de volcans et l'étude qu'on a fait de sa surface révèle que cette surface est très jeune. à des échelles géologiques, c'est-à-dire quelques centaines de millions d'années. Et il y avait un gros mystère avec tous ces volcans et cette surface extrêmement jeune, donc très peu cratérisée par des cratères d'impact. On se demandait comment fonctionnait Vénus, vu qu'effectivement il n'y a pas de tectonique des plaques, sans doute à cause de l'absence d'eau. Et donc on pensait que tous les 500 millions d'années ou quelque chose comme ça, il y avait l'énergie contenue à l'intérieur de la planète sortait et la surface était remodelée en permanence. Alors s'il y a des volcans actifs actuellement sur Vénus, peut-être que ce modèle est à revoir et peut-être que la surface se remodèle en permanence plutôt que par grands épisodes catastrophiques tous les 500 millions d'années.
Charles Frankel, pour finir, il serait possible d'aller les photographier, ces volcans ?
Alors, effectivement, il faudrait plonger sous la couverture nuageuse qui est à 30-40 km d'altitude, qui sont d'ailleurs des cristaux d'acide sulfurique, hein, c'est pas très hospitalier comme nuage. Mais si vous arrivez à descendre sous le plafond nuageux, alors l'atmosphère elle est limpide, c'est du gaz carbonique, c'est transparent. Alors, ce qui serait bien, ce serait par exemple de descendre là-dessous et de survoler en ballon. Ce serait génial comme randonnée, bon, avec des robots, hein, envoyer des hommes, c'est peut-être hors de question, mais des robots qui auraient des caméras. Si on a un vent qui va dans le bon sens, on va savoir exactement où rentrer dans le plafond, sous le plafond nuageux, et dériver le long de ce rift et prendre des photos, ce serait magnifique, parce que c'est un endroit. Pour le moment, comme disait Philippe, les images ne sont pas assez précises pour voir des paysages. Mais si on en voit quelque chose là-dessous, alors les volcans sont de toute beauté. Le rift s'étale au nord de deux superbes volcans qui s'appellent Mat Mons et Sapas Mons. Il y a plein de noms hein, déjà sur Vénus. Tous ces volcans, ils ont des noms. Et ils sont nommés d'après des déesses. Vénus est régie par des noms de déesses ou de femmes célèbres. Et donc, vous avez Sapas Mons, vous avez Mat Mons, Osa, la déesse arabe de la fertilité, enfin, des paysages et une mythologie fabuleuse.
Merci beaucoup, en tout cas, pour ces explications. Confirmation, donc, de l'existence de volcans actifs à la surface de Vénus, Charles Frankel et Philippe Hénarejos. Merci. On a reçu beaucoup de dessins, de photos ce week-end dans le cadre de notre concours Axel 1. Exactement. Et il reste encore des cahiers quiz de la tête au carré à vous offrir. Ils viennent de sortir.
Ils viennent de sortir et il va falloir être rapide pour les gagner puisque on vous propose de les gagner en nous envoyant une photo ou un dessin avec pour thème la tête au carré. Il en reste 17, je crois, si mes chiffres sont bons. Alors, envoyez-nous rapidement vos photos pour gagner les deux cahiers quiz et vous amuser tout l'été.
Voilà, tous les dessins seront visibles sur la page Facebook de l'émission et également sur Twitter. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, survivre grâce à ses poils, c'est la performance de la fourmi argentée saharienne. Cette espèce est en effet capable de maintenir son corps en dessous des 50 degrés dans l'un des climats les plus chauds de la planète. Une équipe américaine explique que cette fourmi a développé au cours de l'évolution un petit duvet de poils argentés sur son dos qui reflète la lumière et les empêche de trop chauffer. Ce mécanisme leur donne un avantage sur d'autres animaux incapables de supporter la chaleur journalière qui peut monter jusqu'à 70 degrés. La Russie voudrait enquêter sur les premiers pas de l'homme sur la Lune dans une lettre ouverte pleine d'ironie. Leur porte-parole russe déclare vouloir aider les Américains à retrouver la pellicule disparue de la mission Apollo 11. En 2009, la NASA avait avoué avoir effacé toutes les bandes dans un souci d'économie. Ils souhaitent par la même occasion jeter un œil sur les 400 kilos de pierres lunaires conservées à Houston. Pour des télégraphes, cette investigation russe est une réaction à l'enquête américaine sur la FIFA qui n'avait pas plu au Kremlin. Et puis pour finir, une mandibule vieille de 40 000 ans découverte en Roumanie qui fait sensation après une batterie de tests ADN, la mâchoire s'avère être celle d'un métis néandertalien. Ce fossile est la première preuve d'un croisement entre un homme de Néandertal et un homo sapiens sapiens en Europe. Jusqu'à présent, un tel métissage était considéré comme marginal et seulement observable au Moyen-Orient. Allez, le massif des Alpes, nous y sommes. C'est le dossier de la tête au carré dans un instant.
Une pluie folle, folle, folle. Sous une pluie folle, folle, folle. La silhouette rentre enfin. La silhouette rentre enfin. Sous une pluie folle, folle, folle. la lune. Entre deux boules, flac, flac. Avisant une personne, la silhouette agite la main. La silhouette agite la main. Avisant une personne.
Belin, folle, folle, folle.
2015, année climatique.
C'est l'année où il faut renouer avec l'espoir.
Aujourd'hui, deuxième volet, solstice d'été.
Une journée spéciale à suivre sur France Inter
et sur franceinter.fr.
La tête au carré, donc, en direct de la terrasse du Grand Hôtel du Mont-en-Vert à Chamonix, donc, au pied de la mer de glace, à l'occasion de cette deuxième journée, en partenariat, donc, avec le journal La Croix. La mer de glace, hein, on vous l'a dit beaucoup depuis ce matin, le plus grand glacier français, pour s'interroger ensemble sur la biodiversité, sur l'accélération de ce processus de réchauffement climatique avec les Alpes, qui se sont réchauffées trois fois plus vite que le reste du monde depuis le milieu des années 80. Alors, évidemment, quelles sont les conséquences du recul des glaciers sur la faune, sur la flore? Mes invités pour en parler, Anne de Lestrade, vous êtes directrice de recherche au CREA, c'est le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude, un organisme de recherche donc qui est basé à Chamonix-Mont-Blanc et qui est spécialisé donc dans l'étude des milieux montagnards. Sylvain Coutran, vous êtes glaciologue, docteur en géographie alpine et membre associé au laboratoire Editem CNRS à l'Université de Savoie. Et puis René Guilligny, vous êtes cristallier, guide de haute montagne à Chamonix. On verra d'ailleurs que les cristalliers ont été les premiers à constater les changements climatiques dès les années 80, en tout cas ici. Et les auditeurs nous rejoignent avec les messages et les questions qui arrivent sur franceinter.fr. Anne de Lestrade et René Guilligny qui est en train de se chamailler avant que le disque se termine pour nommer exactement les drues qui sont en face de nous. Alors René était très précis dans sa description. Il disait, bon, on peut dire les drues, tout le monde connaît les drues, mais vous René, non, c'est le
non,
petit.
Non, il faut voir, en face de nous, nous avons une montagne qui est extraordinaire, qui s'appelle les drues, mais... Oui. Une des faces les plus connues, un des itinéraires mythiques du massif du Mont-Blanc, c'était le pilier sud-ouest du Petit Dru. Voilà. Et il y a quelques années, le pilier sud-ouest du Petit Dru s'est entièrement effondré. Et c'est symboliquement, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est une face qui fait plusieurs centaines de mètres de haut, des milliers de
scalpé,
tonnes.
Qui était scalpé, littéralement. Hein.
Scalpé, ça aurait été le sommet. Là, c'est plutôt s'il y a eu un peeling incroyable.
Ouais. Sur toute sa longueur, hein.
Sur toute sa hauteur. Sur toute sa hauteur, et c'est incroyable, c'est des millions de tonnes de roches qui sont tombées, et miraculeusement, il y avait des gens qui étaient à quelques mètres de l'effondrement, mais absolument personne n'a été touché par cet effondrement.
Oui. Anne de Lestrade, le temps est en train de changer, hein. On a commencé il y a quelques minutes avec un beau soleil, la rapidité aussi, hein, du climat, ici, on le voit, en tout cas de la météo, hein, sur un temps beaucoup plus court.
C'est typique du changement très rapide d'un moment à l'autre en montagne. On a des conditions qui peuvent varier énormément.
Qu'est-ce que vous annoncez là pour d'ici la fin de l'émission?
Je suis pas
alors
météorologue, mais il fera plus frais.
On regardera un petit peu le. Voilà, on a une température qui est en dessous des 20 degrés, hein, largement. Oui. Je crois que Patrick Cohen a eu assez froid ce matin avant que le soleil n'arrive à 8h19 très précise. On a eu un peu plus de chance effectivement et on est dehors extrêmement bien. Sylvain Coutran, la mer de glace. Elle est là, ici à nos pieds, c'est un endroit qui fascine dans le monde entier, qui malheureusement est déjà très affecté par les changements climatiques, avec une perte de sa surface et de sa longueur depuis combien de temps maintenant? 150 ans à peu près?
Depuis 1850 à peu près.
Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre derrière l'appellation mer de glace, au sens strict comme au sens large?
Alors au sens strict du terme, c'est une appellation qui a commencé en 1741 avec la venue de deux touristes anglais qui l'ont baptisée mer de glace en référence à un lac qui aurait été gelé pendant une tempête. Alors, la mer de glace, à l'époque, présentait une surface complètement tourmentée, avec des reflets bleutés, des crevasses partout. Il n'y avait pratiquement aucun caillou. C'était un glacier très dynamique, comme on peut le dire, qui avançait tous les jours, ouais. Beaucoup plus qu'aujourd'hui.
C'est donc très vivant.
C'est très vivant. Un glacier, c'est vivant. Pour reprendre l'expression d'un glaciologue qui est décédé aujourd'hui, Robert Vivian, qui avait écrit « Les glaciers sont vivants » dans les années 75.
Ouais. Et ce glacier donc continue à avancer, à reculer. Il y a ce battement permanent ou pas?
Alors, pour tous les glaciers des Alpes, tous les glaciers descendent, avancent, sont mus par un mouvement. S'ils sont en décrue, comme c'est le cas aujourd'hui, l'avancée ne compense pas la perte de volume pendant la fonte de l'été. Pendant les étés, on a une grosse perte d'épaisseur du glacier, donc aussi une perte en longueur, qui n'est pas compensée par l'arrivée de nouvelles glaces.
Ouais. Et donc, c'est un lieu de science aussi. Hein. Depuis assez longtemps, vous le disiez tout à l'heure, c'est le premier endroit qu'on ait vraiment étudié de très près.
C'est l'un des glaciers les plus étudiés dans les Alpes, l'un des premiers avec le glacier de l'Arre dans les Alpes bernoises. Dès les années 1790-1800, Horace Bénédicte de Saussure, le savant genevois qui venait régulièrement à Chamonix, a étudié les glaciers, a inventé tout un vocabulaire qui est encore en vigueur aujourd'hui.
À quoi ressemblait cette mer de glace justement au moment où on l'a appelée comme ça, donc au 18e, c'est ce que vous disiez tout à l'heure?
Oui, c'était un glacier très bleuté, avec des reflets. On voit les lithographies qui sont très représentatives. Même les premières photos du glacier qui datent de 1848, pour les plus anciennes, nous montrent un glacier très crevassé, très blanc, très propre.
Ouais. Et aujourd'hui, René Guilini?
Non, mais même de mémoire de guide vivant, la mer de glace était absolument pas comme ça, et présentait une surface qui ressemblait beaucoup plus à celle du 19e siècle que maintenant. Il faut voir que les guides au début de leur activité traversaient régulièrement la mer de glace avec même des mulets qui montaient d'un côté et qui descendaient de l'autre. Donc à la verticale du point où nous nous trouvons aujourd'hui, il y avait une énorme activité avec des touristes de l'époque qui traversaient sans avoir besoin de grimper. Aujourd'hui, les moraines se sont effondrées d'une manière tellement importante qu'il est absolument impossible de retraverser.
Ouais, Anne de Lestrade, vous avez été vous aussi, comme tout le monde ici, les témoins de ces changements ultra rapides.
Oui, d'ailleurs, pour aller sur le terrain, on met de plus en plus de temps parce qu'il faut descendre dans la glace là-haut, remonter de l'autre côté pour aller de l'autre côté surveiller les forêts ou les pelouses alpines. C'est de plus en plus dur.
Ouais. Justement, Sylvain Coutran, si on remonte encore plus loin dans l'échelle du temps, imaginons il y a 12 000 ans, par exemple, à quoi ressemblait le paysage ici? On dit que les glaciers s'avançaient jusqu'à la région lyonnaise.
Alors, on va essayer de faire chronologique. 12 000 ans, les glaciers sont déjà très en recul. C'est la dernière avancée de la mer de glace. C'est l'essaim de glace, à la fin de la dernière période glaciaire, où les glaciers réavancent un petit peu dans les vallées. À ce moment-là, il y a 12 000 ans, on serait au bord du glacier ici. Oui. Et le glacier s'avançait jusque dans Chamonix, où le glacier a abandonné une belle petite bosse. C'est une moraine, comme René l'a exprimé tout à l'heure. Par contre, le maximum de la glaciation était bien antérieur, il y a à peu près 25 000 ans. Ouais. Là, les glaciers s'avançaient à 15 km de Lyon.
Et alors aujourd'hui, on est dans quelle période climatique exactement et qu'est-ce qui la caractérise?
Alors nous sommes dans une période interglaciaire depuis 11 000 ans exactement. Cette période interglaciaire durera a priori, d'après les modèles, quelques 40 à 50 000 ans, pourrait durer plus longtemps selon les différents scénarios. Nous sommes dans une période avec un réchauffement actuellement qui est aussi important, voire plus important que les réchauffements qu'on a connus il y a quelques 4, 5 ou 6 000 ans.
Ouais. René Guilini, justement.
Si j'en crois les lectures que j'ai faites sur le sujet, et même des choses que j'ai constatées sur le terrain, du temps des Romains, donc c'est pas si vieux que ça, du temps des Romains, la glace était presque invisible. Les gens descendaient la mer de glace sans mettre le pied sur la glace, et les Romains du côté italien exploraient le massif et utilisaient des mines. Ils exploitaient des mines qui sont situées à plus de 3000 mètres d'altitude, et ils y allaient en spartiate. Hein. Ouais. Donc il faut bien voir que notre réchauffement climatique actuel, il y en a eu dans le passé, récent, très récent, des très violents également.
Ouais. C'est le train à crémaillère qu'on entend.
C'est le train à crémaillère
qu'on entend. Il arrive ici toutes les demi-heures, donc il permet à tout le monde de monter et de descendre tranquillement tout au long de la journée, Sylvain.
Alors je rebondis sur ce que René disait à propos de l'époque romaine. C'est une époque qui est très intéressante. Il y a 3000 ans à l'âge du bronze, à l'époque romaine, il y a 5000 ans, il y a 7000 ans. On a à peu près 8 épisodes où les glaciers, a priori, était plus court qu'aujourd'hui. C'est ce que les travaux de l'équipe de Berne révèlent. On retrouve des troncs d'arbres ici à la mer de glace. On a un collègue du laboratoire qui a fait une thèse là-dessus justement, et on sait que on retrouve des troncs qui ont poussé à l'époque romaine. Ils sont datés de 2000 ans. On a des troncs d'Arol qui ont 3-4000 ans, et on a des glaciers en Suisse qui ont rejeté des troncs gigantesques d'Arol et de Mélèze qui ont 6000 ans, 7000 ans, même de la tourbe. Donc pour que de la tourbe s'installe à l'emplacement d'un glacier, puisque c'est bien le glacier qui la rejette, le torrent sous glaciaire qui la rejette, il faut que le glacier ait partiellement disparu et que des cuvettes lacustres, dans ces cuvettes, la tourbe a pu s'installer.
La haute montagne est particulièrement sensible justement au changement climatique.
Elle est très sensible. Au laboratoire, on a beaucoup de monde qui travaille sur les écroulements, et lorsque le climat se réchauffe, ce qui est le cas, on a beaucoup plus d'étés chauds. On a un dégel du sol en altitude, dégel du permafrost, beaucoup d'écroulements.
Ce qu'il est difficile de comprendre si on n'est pas souvent dans ces montagnes, c'est que le Lyon, en vérité, le massif du Mont-Blanc est un château de cartes. C'est un espèce de pierrier vertical où la cohésion est uniquement due à la glace. Retirer la glace du massif du Mont-Blanc et toute la croûte de surface du massif du Mont-Blanc s'effondre. Pour nous, l'activité de cristallier, c'est pas un métier, hein, c'est une passion, mais une activité qui est quand même extrêmement ancestrale, qui est vieille. Et elle est basée sur une première chose, c'est une observation très attentive de l'évolution de la montagne. Pour nous qui observons la montagne pour trouver des cristaux, tous les changements de couleur et d'aspect sont très importants. Ouais. Et juste pour terminer, pour nous, en 1983-84, il y a vraiment eu une bascule absolue de la glaciation dans le massif du Mont-Blanc, puisqu'il y a eu un dégel incroyable de la totalité du massif du Mont-Blanc, avec des effondrements très importants, et les glaciers étaient noirs des pierres, ce qui n'est pas arrivé ensuite.
Ouais, donc c'est vraiment une date clé, en tout cas, dans ce processus.
Alors, pour nous qui observons le massif du Mont-Blanc comme ça, oui. Ouais. On estime que c'est en 83-84 qu'ont eu lieu vraiment cette déglaciation totale.
Ouais. René Guilligny, vous êtes un miraculé d'ailleurs, hein, du changement climatique. Hein.
J'allais dire, malheureusement et heureusement pour moi, j'ai été la victime d'une très très grosse chute il y a quelques années en arrière, et cette chute est due au fait que le dégel n'était pas uniquement un dégel de surface, mais un dégel en profondeur, et le relais, c'est-à-dire l'endroit où j'étais arrêté, s'est effondré parce que le dégel était très très profond, et j'ai fait une énorme chute dont j'ai été miraculé.
Ouais, 50 mètres, hein, je crois, c'est ça.
Une cinquantaine de mètres de chute, ensuite une crevasse. Ouais. J'ai vu le glacier de l'intérieur, puisque j'y ai séjourné pendant plusieurs heures, le temps que les très efficaces secours en montagne de Chamonix viennent me chercher. Donc je sais un peu ce que c'est.
Ouais. Donc vous êtes un miraculé, et votre température était descendue jusqu'à combien?
29 degrés.
Hein. En mai dernier, Guillaume Batin, justement pour la tête au carré, s'est rendu sur le glacier d'Argentière, dans la vallée de Chamonix, et il a rencontré sur place Christian Vincent, qui est membre du laboratoire de glaciologie de Grenoble, Luc Piard, qui est spécialiste de carottage en Antarctique, et Olivier Sanchez, qui est géophysicien, pour une opération, vous allez le découvrir, de carottage, justement, dans le glacier.
Aujourd'hui, on va aller faire des carottages sur le glacier d'Argentière pour mesurer l'accumulation hivernale.
C'est le moment idéal de l'année pour le faire ?
Oui, c'est la bonne saison, c'est la bonne période, parce que c'est la fin de la saison hivernale, et c'est à ce moment-là que le manteau neigeux hivernal est à son maximum. Donc après, on mesure la fonte. Mais aujourd'hui, on va mesurer l'accumulation.
Voilà l'hélicoptère.
C'est pour nous, hein. C'est pour nous, donc on va y aller.
Ben, on est arrivé au premier site de forage. C'est le cirque du glacier d'Argentière. Donc ici, on doit être vers 3100 mètres d'altitude. 3050 mètres exactement. Donc c'est le bassin d'accumulation du glacier d'Argentière. C'est-à-dire que l'accumulation hivernale est supérieure à la fonte estivale. Et on va faire le premier carottage.
On utilise un carottier, donc là c'est un carottier à main qui est constitué en fait d'un tube creux à l'intérieur, et au fond, au bout, il y a une tête avec des couteaux qui permettent de couper une section annulaire de la glace, et puis en fait la carotte elle remonte dans le tube.
Là, on est en train d'extraire les différentes carottes du forage, et ces différentes carottes, on va les peser. On les mesure exactement, on mesure la circonférence, on mesure la longueur et on mesure la masse, de telle façon à déterminer la densité de chacune des carottes. De cette façon-là, on peut avoir le profil de densité en profondeur, et à partir de ce profil de densité, on peut convertir la hauteur de neige, l'épaisseur du manteau neigeux, en hauteur d'eau. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est la quantité d'eau finalement amassée sur le glacier.
On est à combien là ?
2,40 m.
Combien ?
2,40 m.
Non, non, c'est, il y a très peu de neige sur le glacier. C'est une année très très déficitaire. Ça va être une catastrophe pour le glacier. L'année 2015 risque d'être une catastrophe. Il y a fort à parier qu'on a un bilan de masse très très négatif. Ça veut dire que le glacier va perdre beaucoup de masse cette année. Si on a un été très chaud, la fonte estivale va être encore plus importante. Et donc c'est très mauvais pour le glacier. Ouais, c'est une mauvaise nouvelle pour le glacier.
Voilà les réactions évidemment autour de cette table, Anne de l'Estrade, 2015. Donc année catastrophique, les nouvelles sont mauvaises. C'est pas très bon ce qu'on entend effectivement.
Oui, on a un hiver qui est encore chaud. Donc ça fait le deuxième hiver de suite d'ailleurs, qui est dans les cinq hivers les plus chauds de, ouais, depuis les dernières décennies. Là. Donc on a des records tous les ans, c'est assez impressionnant. Soit l'été, soit le printemps, soit l'hiver. Bon là, l'hiver était peu arrosé et chaud. Ouais. Donc les glaciers vont effectivement être un petit peu diminuer.
Ouais. Ça, Sylvain Coutran, c'est la mémoire des glaces hein, qui nous le dit justement aussi.
C'est la mémoire des glaces et effectivement, vous parliez de Christian Vincent qui font des relevés, ouais. On fait des bilans de masse chaque année sur plusieurs glaciers dans les Alpes. On peut dire que les bilans sont négatifs pratiquement tous depuis 1982. 82 étant une année charnière et à ce moment-là, les premiers glaciers réagissent avec un certain temps de réponse, commencent à reculer. La mer de glace commence à reculer avec 12 ans de temps de réponse à partir de 1992.
Ouais.
On a très peu d'années avec des bilans de masse positifs depuis 82.
René Guilini, est-ce que les glaciers pourraient totalement disparaître ?
Ah, ça, ce n'est pas à moi de répondre à ça. Je pense qu'il est bien, le glaciologue est bien mieux placé que moi. Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous, notre activité de guide haute montagne, qui est une activité d'adaptation très importante, parce que nous devons nous adapter en permanence à cette évolution aux glaciers, aux rochers. Pour nous, ça peut poser des problèmes parce que les glaciers reculent de manière incroyable. Lorsque j'étais petit enfant, 14 ou 15 ans, on va dire, adolescent, j'ai appris à grimper et j'ai appris les méthodes de l'alpinisme sur le glacier des Bossons où nous allions à l'horizontale depuis le parking. Aujourd'hui, le glacier des Bossons a tellement reculé qu'il n'y a plus aucune activité possible d'école sur le glacier des Bossons. Il est 400 mètres plus haut, ce qui est absolument incroyable.
Sylvain Coutran, alors, la disparition des glaciers, c'est plausible ?
Je dirais simplement, bien malin qui peut prévoir l'état des glaciers dans 100 ans. Aujourd'hui, on est confronté véritablement à un réchauffement important, un recul important. Le laboratoire de glaciologie de Grenoble pense, d'après les modèles, que dans 20 ans, la mer de glace aura perdu 800 mètres de longueur. Ça, c'est quasiment évident. On est parti pour au minimum 30 ans de recul. Quelles seront les températures dans 50, dans 100 ans? C'est très difficile de le dire. Il y a plusieurs modèles qui circulent. Le GIEC pense, avec beaucoup d'arguments, effectivement, que en fonction du rejet de gaz à effet de serre, le climat va se refroidir. Et il est vrai qu'il faut faire quelque chose. On est dans une période charnière. Maintenant, tout ça est un petit peu dogmatique, peut-être. Il faut surtout, en matière de science, ne pas être dogmatique et accepter d'autres modèles. Quoi qu'il en soit, la situation est assez alarmante.
Ça veut dire quoi? Vous contestez les propositions du GIEC?
Non, je ne suis pas du tout climato-sceptique comme certaines personnes, comme Claude Allègre. Je pense qu'il faut étudier, avoir beaucoup de données qu'on n'a pas toujours.
Anne de l'Estrade, partagez cette analyse ou pas?
Je serais un petit peu plus tranchée. Il y a de plus en plus de modélisations assez précises quand même sur les températures. Mm-hmm. Les précipitations, c'est un petit peu plus compliqué à modéliser. Mais sur les températures, on a quand même des modèles qui montrent des évolutions très claires de température jusqu'en 2100,
ouais,
avec des projections qui sont de... Pour les Alpes, il faut comprendre que le réchauffement est plus important que sur l'ensemble de la planète,
ouais,
et encore plus important que la France,
ouais,
globale. Donc, on prédit des 4-5 degrés en plus en 2005.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de cette conversation. Donc ici sur la terrasse du Grand Hôtel du Mont-en-Vert à la mer de glace, donc à Chamonix. All the trees that we do not climb, bridges we cross in our minds, who are we fooling when we cry, when she says everything is fine, over her head clouds that look like mine. Oh, why can't she wish for brighter skies? All the speeches you make in your head, all the worries that you never said, rotten fireworks kept inside. I'm
Look at them avec Jeanne Hadid à l'instant sur France Inter.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Actualité alpine en altitude puisque nous sommes aujourd'hui donc sur la mer de glace à l'occasion de cette deuxième journée spéciale climat et biodiversité. Sylvain Coutran, glaciologue, Anne de l'Estrade du CREA, directrice de recherche, et René Guilligny, cristallier, sont nos invités avec le public ici présent. Il y a d'ailleurs des questions d'un auditeur du Luxembourg, je crois. Bonjour à vous.
C'est juste, merci.
On vous écoute et bienvenue.
Merci beaucoup pour toutes vos émissions que j'écoute toujours au Luxembourg.
Merci.
Fantastique, merci. Donc j'aurais une question, en fait, on parlait avant des périodes d'intervalle glaciaire naturel. Et ma question était celle-ci, quelle est la vraie influence des hommes et aussi du dernier réchauffement qu'il y a depuis une centaine d'années, je suppose, depuis l'industrialisation. Et est-ce qu'on en retrouve vraiment des traces dans le glacier?
Alors, Sylvain Coutran.
Alors, l'influence de l'homme se fait sentir depuis une centaine d'années, en faisant à la louche. Auparavant, tout est entièrement naturel. Une période interglaciaire est gérée par des paramètres astronomiques, la position de la Terre dans l'espace par rapport au Soleil. On a en gros une glaciation, un cycle glaciaire tous les 100 000 ans. Le prochain cycle glaciaire, la prochaine glaciation devrait reprendre d'ici 50 000 ans. Par contre, l'activité de l'homme influe vraisemblablement sur, notamment par les émissions de gaz à effet de serre, et ça depuis 40 à 50 ans. Ouais. Il est clair que l'augmentation des gaz à effet de serre qu'on peut reconnaître dans les bulles d'air contenues dans la glace en Antarctique et au Groenland montre clairement qu'il y a quelque chose d'anormal qui se produit, et ça c'est l'homme. Aujourd'hui, personne ne peut dire honnêtement quel est le pourcentage du réchauffement lié à l'activité de l'homme. Voilà, il faut être honnête par rapport à ça.
Ah, ça, c'est une interprétation que vous avez, en tout cas, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord, Anne de l'Estrade, là-dessus. Hein. Et les conclusions du GIEC sont beaucoup plus précises.
Oui, alors moi, je ne suis pas du tout climatologue, donc je ne vais pas me lancer dans les chiffres. Mais oui, je crois qu'il y a des modélisations très précises par des climatologues, et la majorité des climatologues sont assez d'accord quand même sur ces projections qui montrent un effet de l'homme de plus en plus marqué et qui va s'accentuer... Dans les décennies à venir.
René Guilligny, un auditeur, nous dit ceci. Le tourisme et le tunnel du Mont-Blanc accélèrent-ils la fonte des glaciers dans le massif? Est-ce qu'il y a une surexploitation du massif du Mont-Blanc?
Alors, je pense qu'il n'y a pas de surexploitation du massif du Mont-Blanc en tant que haute montagne. Mm-hmm. Ça, on croit comme ça que le massif du Mont-Blanc est surfréquenté, mais c'est faux. Il y a quelques grands itinéraires, qui sont des itinéraires mythiques comme l'ascension du Mont-Blanc ou des itinéraires assez faciles, qui effectivement ont une fréquentation très très importante. Mais le reste du massif du Mont-Blanc, il est très peu fréquenté. Nous passons l'été dans des endroits où nous ne voyons absolument personne. Et je pense pas que l'influence du tunnel du Mont-Blanc et du tourisme ait une grosse influence sur le réchauffement. Par contre, au niveau de la pollution de la vallée, oui, il est évident que même si les camions qui traversent le tunnel du Mont-Blanc n'ont que peu d'influence au niveau du réchauffement, il est clair et net que les gaz d'échappement et que l'ensemble de la pollution est sûrement beaucoup plus grave que le réchauffement lui-même. Pour revenir sur ce que disait Sylvain, il y a quelques années de ça, nous avons dû déblayer des mètres d'épaisseur de glace pour atteindre ce que nous pensions être un four à cristaux, c'est-à-dire une cavité dans laquelle il y avait des cristaux.
Hein, ouais,
des mètres. Donc on a travaillé très très longtemps pour arriver à cette fissure dans laquelle on pensait qu'il allait y avoir des cristaux. Ensuite, on a dû, avec des bouteilles de gaz, dégeler l'intérieur du four à cristaux pendant des mètres également. Et au bout, il y avait des outils. Et les outils devaient dater d'une centaine d'années. Donc ça veut bien dire qu'il y a pas mal d'endroits dans le Tignon Blanc où il y a une centaine d'années de ça, il n'y avait absolument pas de glace.
Anne de l'Estrade, vous êtes donc directrice de recherche au CREA, le centre de recherche sur les écosystèmes d'altitude. Quelles sont les recherches exactement que vous menez sur la biodiversité alpine?
Alors on étudie le fonctionnement des écosystèmes alpins, donc aussi bien sur la flore que sur la faune, essayer de comprendre quelles sont les spécificités des milieux alpins, comment les espèces répondent à ces variations climatiques notamment qu'on a depuis quelques temps, et essayer de prédire un petit peu l'avenir, si je puis dire, pour voir qu'est-ce qu'elles vont devenir.
Vous avez plusieurs programmes en cours?
On a plusieurs programmes en cours sur des oiseaux, des amphibiens, des plantes. Ouais. Et une particularité, on essaye aussi de faire participer le public à nos recherches. Donc ça fait un petit peu partie de nos spécificités au CREA.
Oui, avec des données.
Avec des données qui viennent donc de ce qu'on appelle des programmes de sciences participatives. Donc il y a 10 ans, on a lancé un programme qui s'appelle Phénoclime et qui dont l'objectif est de suivre la phénologie, donc les stades des événements saisonniers sur les arbres, et ceci dans toutes les Alpes. Donc on a l'avantage de pouvoir suivre dans tout un tas de conditions climatiques variées.
Ouais.
Sur du long terme, les dates à laquelle les arbres fleurissent ou débourrent, et qui nous donnent des évolutions intéressantes à long terme sur l'ensemble des Alpes.
Viron nous écrit ceci sur franceinter.fr. Anne de Lestrade, qui a étudié et qui continue de suivre les populations de chocards à bec jaune, connaît bien apparemment, a-t-elle constaté des changements avec les chocards? Alors vous nous les décrivez d'abord, ce sont vos oiseaux fétiches, hein?
Oui, les chocards, donc ça fait plus de 25 ans que je les suis, que je les bague et que je cours après. Donc dans ce massif du Mont Blanc, les principaux résultats, je dirais, de l'évolution liée à l'évolution climatique, c'est principalement la date à laquelle ils se reproduisent. Et c'est la grande tendance sur l'ensemble des organismes vivants.
Sur la reproduction,
le plus gros effet, voilà, c'est à quelle date les oiseaux ou les amphibiens ou les plantes démarrent, en fait, enfin, leur stade saisonnier. Donc, effectivement, l'envol des jeunes chocards se passe 8 jours plus tôt qu'il y a 20 ans en moyenne.
Et c'est beaucoup pour une espèce animale?
C'est beaucoup parce que ça veut dire que il faut savoir qu'en alpin, dans les zones alpines, donc en altitude, les saisons sont très courtes. C'est une des caractéristiques importantes. Donc il faut faire son cycle très vite. Et donc si vous augmentez la taille de la saison, vous avez plus de chances de vous reproduire. Les petits peuvent éventuellement se développer plus longtemps. Donc voilà, donc on peut imaginer qu'en fait ça les avantage.
Ouais. Donc un hiver plus court, une précocité du printemps aussi. Ça fait partie des observations.
Voilà, c'est lié à la précocité du printemps. En fait, c'est avancé donc ces oiseaux s'adaptent finalement au décalage de la fonte de la neige principalement. C'est-à-dire que on a des printemps de plus en plus chauds avec une fonte de neige très précoce. Et ceci fait qu'ils ont accès à la nourriture plus tôt.
Donc vous parlez davantage, en fait.
Alors,
comment on doit interpréter ça précisément, oui?
Pour certaines espèces, ça va être un avantage, justement. Celles qui arrivent à s'adapter à une saison plus longue en montagne, donc pourront avoir plus de descendance, donc produire plus de jeunes, etc. Et puis d'autres, c'est un petit peu ce qu'on essaie d'étudier. Lesquels vont arriver à en tirer parti? Et lesquels, au contraire, ça va leur poser des problèmes.
Ouais. Quelles sont les différentes espèces, quelques-unes en tout cas, que vous suivez tout particulièrement ici?
Alors, on étudie, par exemple, la grenouille rousse comme amphibien, parce que c'est une espèce qui n'a pas la thermorégulation comme les mammifères, les oiseaux, et donc qui est beaucoup plus liée à l'importance des températures.
Ouais.
Et on étudie les dates de ponte aussi. Donc on voit très bien qu'il y a aussi un lien énorme avec la fonte des neiges, qui est liée aux températures certes, mais aussi aux précipitations en hiver. Donc on a deux paramètres principaux en milieu alpin qui sont l'évolution des températures, mais aussi il faut prendre vraiment en compte l'évolution de la neige et de l'enneigement, qui, comme tous les skieurs le savent, a décru fortement dans les 30 dernières années.
Donc la grenouille, la mésange noire également, donc le chocard à bec jaune, le campagnol des neiges, ça fait partie des espèces que vous suivez. Et alors celles qu'on connaît bien, les chamois, les marmottes, tout ça, vous arrivez à les suivre aussi pour voir l'influence des changements?
Alors nous on les suit pas très exactement, mais il y a des équipes, notamment sur Lyon pour les marmottes et sur Chambéry pour les chamois, qui font des études à long terme, puisqu'on est quelques-uns. Il faut savoir que par rapport aux glaciers, ce qui est très différent sur les animaux par exemple, c'est qu'il faut faire des suivis beaucoup plus longs pour arriver à avoir des données. Ça ne varie pas comme ça en une année, deux années, on arrive à prédire. Et donc il faut des séries de 30 ans, de 40 ans de suivi, et donc ça demande pas mal d'investissement.
Ouais,
et il y a quelques études
scientifiques alors.
Voilà, donc il y a 4-5 études sur les mammifères, chamois, campagnols, marmottes, et puis le chocard et des lagopèdes, qui sont des études à long terme. Donc ce sont les seules qui sont qui sont suivies depuis si longtemps, où on peut vraiment avoir des conclusions importantes.
Là, c'est le métro qui arrive. Voilà, le petit train du Mont-en-Vert. René Guilini.
Alors, là où nos activités se croisent avec Anne, et je dois dire que je suis admiratif devant son travail, c'est que le chocard à bec jaune, comme vous le savez, c'est un animal sauvage qui vole. Ça vole. Donc, oui. Nous, quand on grimpe, on va dans des endroits absolument inaccessibles et parfois on trouve des grosses cavités qui sont en général même d'anciens fours à cristaux, dans lesquels nous trouvons des chocards à bec jaune bagués. Ils ont la coquetterie d'avoir à chaque patte ou à une seule patte des bagues. Et pour nous, je n'arrive absolument pas à comprendre comment elle a pu réussir à baguer un nombre aussi important de chocards.
Bah, elle va vous répondre, elle
est à votre
droite.
C'est ce qu'elle vient de dire là. Et les études qu'elle fait sont basées quand même sur la connaissance de ces animaux.
C'est vrai.
Pour qu'on sache où vont ces animaux, il faut qu'ils soient bagués. Et là, on trouve des animaux bagués, mais vous n'avez aucune idée. C'est totalement inaccessible. Et les oiseaux sont bagués là-haut.
Anne de Lestrade.
Alors oui, l'intérêt, enfin justement le suivi comme ça de, oui, d'une espèce, il faut bien comprendre qu'on peut pas avoir des conclusions juste en les regardant, même si on les admire beaucoup. Donc il faut pouvoir les reconnaître et donc je leur mets effectivement des bagues depuis 25 ans.
Oui.
J'en ai bagué 1500 par là et ça permet de suivre leur déplacement et de voir aussi qu'avec le réchauffement, on a des changements de comportement, oui, qui sont importants.
Alors justement, les plus gros effets de ce changement climatique, à la fois sur la faune et sur la flore, qu'est-ce qu'on peut donner comme déjà grand trait?
Donc le grand trait, comme je vous disais, c'est l'évolution des dates de reproduction,
oui,
ou de débourrement de la végétation, de démarrage, de plus en plus précoce au printemps. Donc une évolution au printemps,
mm-hmm,
très nette sur les dates de reproduction.
Et sur la végétation?
Sur la végétation, donc elle démarre plus tôt. Donc là, on a sur justement, par exemple, sur les espèces forestières qu'on suit grâce à ce programme Phénoclim, on a observé que sur les noisetiers, on a 10 jours d'avance en 10 ans.
Ouais.
Ce qui est, c'est énorme, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est comme on a des zones sur tout un tas d'altitudes différentes, on peut aussi analyser l'effet en haute altitude par rapport à la basse altitude. Et
oui,
pour des espèces comme le mélèze, on a un impact, on a des variations plus importantes en haute altitude. C'est-à-dire qu'ils répondent de manière amplifiée en altitude. Et c'est une tendance générale. C'est-à-dire que c'est plus marqué. Les effets sont plus marqués en altitude. Pourquoi? Parce qu'en fait, la contrainte ce qui contraint les animaux en montagne, c'est justement en altitude, c'est justement la température. C'est un des paramètres capitaux pour cet environnement-là.
René Guilini, vous êtes cristallier, guide de haute montagne à Chamonix, et vous le disiez tout à l'heure, 1983, c'est pour vous une date charnière, en tout cas dans l'observation des modifications
donc
climatiques.
Nous observons le massif du Mont Blanc depuis toujours. Hein.
Ouais.
Avec mes habits, on a commencé l'activité de cristallier, on était à peine adolescent, donc nous observons aux jumelles pendant des heures, le rocher pour déceler à l'intérieur du rocher les changements de structure et les changements de couleur qui vont nous dire il faut aller voir là, il y a des cristaux. Donc nous observons beaucoup plus qu'un alpiniste normal ou même qu'un glaciologue qui va regarder le glacier. Et pour nous, vraiment la date absolument charnière dans le massif du Mont Blanc fut l'année 1983,
ouais,
où tout d'un coup il y a eu une déglaciation absolument totale du massif qui ne s'est pas reproduite après pour la bonne et simple raison qu'en 1983, ce qui devait tomber, qui n'était pas tombé pendant des dizaines et des dizaines d'années, est tombé. Donc les années qui ont suivi, il y a eu moins de chutes de pierre que ces années-là. Alors, pour finir, les guides de haute montagne sont extrêmement sensibles à ça, puisque ça met le guide de haute montagne dans une véritable situation de danger. Alors, de danger parce que les chutes de pierre sont très importantes, et cette année-là, les chutes de pierre pouvaient survenir absolument n'importe où, et qu'il y a également des effondrements absolument terribles, dans lesquels d'ailleurs nous avons perdu un de nos amis à cette époque-là.
René Guilini, vous nous avez apporté un cristal ici, et quels sont les cristaux qu'on trouve dans cette région exactement alors? Parce que vous êtes comme un ramasseur de truffes en fait, hein, ici. Hein.
Exactement, c'est un jour un monsieur qui est chasseur de truffes manie, nous avons le même métier,
c'est
vous
ça.
C'est l'or du massif du Mont Blanc,
voilà.
Moi c'est l'or des chênes.
Ouais.
Et j'étais très surpris, et ensuite il m'a expliqué, donc il m'a montré comment il trouvait ça. Alors dans le massif du Mont-Blanc, on trouve principalement, on va pas s'étendre sur toutes les différentes petites spécimens, du quartz, c'est-à-dire du cristal de roche. Donc qui peut être très clair, il y en a peut-être 15 à 20%, et sinon qui a une couleur plutôt sombre. On l'appelle le quartz fumé. Et quand il est très noir, on l'appelle le quartz morion. Toutes les teintes sont possibles.
Celui que vous avez entre les mains, il a quel âge? Comment il s'est formé?
Ça a environ une vingtaine. Ça devrait avoir une vingtaine de millions d'années. Ouais. Il s'est formé lorsque le massif du Mont Blanc est sorti et a commencé son érection. Énormément de fissures se sont créées. Dans ces fissures, de l'eau s'est infiltrée très profondément. Au fur et à mesure que l'eau s'est infiltrée, elle a dissous la silice, qui est un des composants majeurs du granit. Ensuite, quand elle est arrivée à une certaine profondeur, devant la température et la pression, les conditions de cristallisation étaient réunies. Le cristal s'est formé et les cavités se sont remplies de cristaux qui peuvent être centimétriques, millimétriques, ou dans certains cas qui peuvent être métriques.
Vous êtes nombreux ici à Chamonix ?
Il y a probablement une cinquantaine de personnes qui vont chercher des cristaux, mais d'une manière très assidue, pas plus d'une vingtaine de personnes.
Il existe toujours la bourse aux cristaux de Chamonix ?
Bien sûr.
Au mois d'août, c'est ça ? Vous connaissez Germaine Charlet, évidemment.
Alors, Germaine Charlet était la grand-mère de mon compagnon habituel de montagne qui s'appelle Jean-Franck Charlet et également la grand-mère de Georges Bettembourg qui est mort dans un de ses effondrements.
Et en 95, elle témoignait justement pour France Culture à l'occasion de la Bourse aux cristaux.
Et on est quelquefois très inquiets quand on ne les voit pas rentrer le soir, quand ils ont loupé la dernière benne ou quelque chose comme ça. Mais ils sont tellement heureux quand ils ont vu quelque chose. Ça mène vite à la maison. Regarde, c'est un peigne, regarde ceci, regarde ça. C'est la joie de la découverte, ça doit être. Et voir un four, ça doit être sensationnel. Découvrir un four. Moi, j'étais aussi heureuse qu'eux quand ils arrivaient. Sur cette pelouse, je vous assure qu'on en a fait des découvertes quelquefois. Je vous dis, la première chose, ils quittaient leurs chaussures parce qu'ils étaient fatigués. Ils avaient les pieds complètement blancs, la transpiration et tout ça. Et pieds nus, là, et quand on commençait à laver, il y en a un qui allait chercher les bacs, l'autre mettait l'eau. Et on frottait, et on nettoyait, et on en amenait. Là, tout le monde participe quand on est là. Moi, toutes mes brosses à dents, elles ont passé comme ça. Hein. Quelquefois, je n'avais pas de brosses à dents. Elles passaient pour nettoyer les cristaux.
Voilà, pour avoir une bonne collection de brosses à dents, René Guilini pourrait être un bon chasseur de cristaux ici.
Pour être un bon chasseur de cristaux à Chamonix, il faut avant tout dominer toutes les techniques de l'alpinisme et avoir une très très bonne vue.
Oui, c'est ensuite, hein, quand on descend, qu'il faut les...
Donc ensuite, il faut les... S'il ne reste qu'à les nettoyer, c'est facile.
Absolument. Et vous avez un métier à risque en tout cas, et vous êtes l'un des représentants justement de cette discipline.
Mais c'est un métier à risque, mais c'est surtout un métier d'amour et de passion.
Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci, on était très heureux de vous retrouver ici donc sur la terrasse du Mont en Vert. Merci à La Croix, donc demain cahier sciences et éthique pardon, qui paraîtra donc demain consacré à la biodiversité. Un livre également, je vous souligne Les glaciers du Mont Blanc, les comprendre, les explorer. Sylvain Coutran, c'est aux éditions Aesop. Et puis prochain rendez-vous de cette journée spéciale, 18h, un jour dans le monde, Nicolas Demorand, comment sauver la biodiversité, suivi du téléphone sonne avec Hélène Jouan. Fabrice Rouel, vous êtes en studio à Paris.
Absolument.
Affaires sensibles, quel est le thème aujourd'hui, Fabrice ?
Science et ethnique, le rap. L'histoire du rap en France avec notre invité Mehdi Maizi, rédacteur en chef adjoint de l'ABCDR du Son, le site de référence du hip-hop.
Merci aux équipes techniques à Chamonix et à la compagnie du Mont Blanc pour leur accueil.